Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 7, chapitre 9. Victoire, tumulte et calme, le vers du duc Éric, l'électeur et Spalatin, message de l'empereur, on veut violer le sauf-conduit, vive opposition, enthousiasme pour Luther, voix de conciliation, crainte de l'électeur, concours chez Luther, Philippe de Hesse. Il faisait nuit. Chacun regagnait sa demeure dans les ténèbres. On donna à Luther deux officiers impériaux pour l'accompagner. Quelques-uns s'imaginèrent que son sort était arrêté, qu'on le conduisait en prison et qu'il n'en sortirait que pour aller à l'échafaud. Un immense tumulte s'éleva. Plusieurs gentilshommes s'écrièrent « Est-ce en prison qu'on le mène ?»« Non, répondit Luther, il m'accompagne à mon hôtel. » À ces mots, les esprits se calmèrent. Alors des Espagnols de la maison de l'empereur, suivant cet homme audacieux, l'accompagnèrent de huées et de moqueries à travers les rues qu'il devait traverser, tandis que d'autres faisaient entendre les cris de la bête féroce à qui l'on vient d'enlever sa proie. Mais Luther demeura ferme et en paix. Telle fut la scène de Worms. Ce moine intrépide, qui jusqu'alors avait bravé avec quelque audace tous ses ennemis, parla dans cette heure où il se trouvait en présence de ceux qui avaient soif de son sang, avec calme, noblesse et humilité. Pas d'exagération, pas d'enthousiasme humain, pas de colère. Il fut en paix dans l'émotion la plus vive, modeste en résistant aux puissances de la terre, grand en présence de toutes les majestés du monde. C'est là un irrécusable indice que Luther obéissait alors à Dieu et non aux suggestions de son orgueil. Il y avait dans la salle de Worms quelqu'un de plus grand que Luther et que Charles. « Quand vous me rendrez témoignage devant les nations, ne soyez point en peine, a dit Jésus-Christ, car ce n'est pas vous qui parlerez. » Évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 18 et 20. Jamais peut-être cette promesse ne s'accomplit d'une manière si manifeste. Une impression profonde avait été produite sur les chefs de l'Empire. Luther l'avait remarqué et son courage s'en était accru. Ces seigneurs furent gagnés à une cause soutenue avec une telle conviction. Chez quelques-uns, il est vrai, l'impression ne fut que passagère. Mais d'autres, au contraire, qui se cachèrent alors, se manifestèrent plus tard avec un grand courage. Luther était de retour dans son hôtel, reposant son corps fatigué par un si rude assaut. Spalatin et d'autres amis l'entouraient et, tous ensemble, louaient Dieu. Comme ils conversaient, un valet entre, portant un vase en argent, rempli de bière d'Heimbeck. « Mon maître, dit-il en le présentant à Luther, vous invite à vous restaurer avec cette boisson. » « Quel est le prince ? Dit le docteur de Wittenberg, qui se souvient si gracieusement de moi. » C'était le vieux duc Éric de Brunswick. Le réformateur fut touché de cette offrande d'un seigneur si puissant et qui appartenait au parti du pape. « Son Altesse, continua le valet, a voulu goûter elle-même cette boisson avant de vous l'envoyer. » Alors Luther, altéré, se versa de la bière du duc et après l'avoir bu, il dit « Comme aujourd'hui le duc Éric s'est souvenu de moi, qu'ainsi notre Seigneur Jésus-Christ se souvienne de lui à l'heure de son dernier combat. » C'était peu de chose que ce présent, mais Luther voulant témoigner sa reconnaissance à un prince qui se souvenait de lui en un tel moment, lui donnait ce qu'il avait, une prière. Le valet alla porter ce message à son maître. Le vieux duc se rappela ses paroles au moment de sa mort, et s'adressant à un jeune page, François de Cramme, qui se tenait debout à côté de son lit, « Prends l'Évangile, lui dit-il, et lis-le-moi. » L'enfant lut les paroles de Christ, et l'âme du mourant fut restaurée. « Quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, dit le Sauveur, je vous dis en vérité qu'il ne perdra pas sa récompense. » À peine le valet du duc de Brunswick était-il sorti, qu'un envoyé de l'électeur de Saxe vint ordonner à Spalatin de se rendre à l'instant près de lui. Frédéric était venu à la diète plein d'inquiétude. Il avait cru qu'en présence de l'empereur, Luther verrait son courage s'évanouir. Aussi la fermeté du réformateur l'avait-elle profondément ému. Il était fier d'avoir pris sous sa protection un tel homme. Quand le chapelain arriva, la table était mise. Les lecteurs allaient s'asseoir pour souper avec sa cour et déjà les valets avaient emporté le vase où l'on se lavait les mains. Voyant entrer ce palatin, Frédéric lui fit aussitôt signe de le suivre. Et seul avec lui dans la chambre à coucher, il lui dit avec une grande émotion « Oh, comme le père Luther a parlé devant l'empereur et devant tous les états de l'empire, je tremblais seulement qu'il ne fût trop hardi. » Frédéric prit alors la résolution de protéger à l'avenir le docteur avec plus de courage. Aléandre voyait l'impression que Luther avait produite. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait décider le jeune empereur à agir vigoureusement. Le moment était favorable. La guerre avec la France était imminente. Léon X, voulant agrandir ses états et se souciant peu de la paix et de la chrétienté, faisait en même temps négocier secrètement deux traités. L'un avec Charles contre François, l'autre avec François contre Charles. Par le premier, il demandait pour lui à l'empereur Parme, Plaisance et Ferrare. Par le second, il réclamait du roi une partie du royaume de Naples qui serait ainsi enlevée à Charles. Celui-ci sentait l'importance de gagner Léon en sa faveur afin de l'avoir pour allié dans la guerre contre son rival de France. C'était peu que d'acheter au prix de Luther l'amitié du puissant pontife. Le lendemain de la comparution, le vendredi 19 avril, l'empereur fit lire à la diète un message écrit en français de sa propre main. « Issu, disait-il, des empereurs chrétiens d'Allemagne, des rois catholiques d'Espagne, des archiducs d'Autriche et des ducs de Bourgogne, qui se sont tous illustrés comme défenseurs de la foi romaine, j'ai le ferme dessein de suivre l'exemple de mes ancêtres. Un seul moine, égaré par sa propre folie, s'élève contre la foi de la chrétienté. Je sacrifierai mes royaumes, ma puissance, mes amis, mes trésors, mon corps, mon sang, mon esprit et ma vie pour arrêter cette impiété. Je vais renvoyer l'Augustin Luther en lui défendant de causer le moindre tumulte parmi le peuple. Puis je procéderai contre lui et ses adhérents comme contre des hérétiques manifestes par l'excommunication, par l'interdit et par tous les moyens propres à les détruire. Je demande aux membres des États de se conduire comme de fidèles chrétiens. » Cette allocution ne plut pas à tout le monde. Charles, jeune et passionné, n'avait pas suivi les formes ordinaires. Il eût dû premièrement demander l'avis de la diète. Deux opinions extrêmes se prononcèrent aussitôt. Les créatures du pape, les lecteurs de Brandebourg et plusieurs princes ecclésiastiques demandèrent que l'on ne respectât point le sauf-conduit donné à Luther. « Le Rhin, dirent-ils, doit recevoir ses cendres comme il a reçu il y a un siècle celle de Jean Hus. Charles, s'il faut en croire un historien, se repentit vivement plus tard de n'avoir pas suivi ce lâche conseil. « Je confesse, dit-il vers la fin de sa vie, que j'ai fait une grande faute en laissant vivre Luther. Je n'étais point obligé de lui tenir ma promesse, cet hérétique ayant offensé un maître plus grand que moi, Dieu lui-même. Je pouvais, je devais même, oublier ma parole et venger l'injure qu'il faisait à Dieu. C'est parce que je ne l'ai pas fait mourir que l'hérésie n'a pas cessé de faire des progrès. Sa mort l'eût étouffé au berceau. » Une si horrible proposition remplit d'effroi les lecteurs et tous les amis de Luther. Le supplice de Jean Hus, dit l'électeur palatin, a fait fondre sur la nation allemande trop de malheurs pour qu'il faille une seconde fois élever un tel échafaud. Les princes d'Allemagne, s'écria Georges de Saxe lui-même, cet irréconciliable ennemi de Luther, ne permettront pas qu'on viole un sauf-conduit. Cette première diète, tenue par notre nouvel empereur, ne se rendra pas coupable d'une action si honteuse. Une telle perfidie ne s'accorde pas avec l'antique droiture germanique. Les princes de Bavière, dévoués aussi à l'église de Rome, appuyèrent cette protestation. La scène de mort que les amis de Luther avaient déjà devant les yeux parut s'éloigner. Le bruit de ces débats, qui durèrent deux jours, se répandit dans la ville. Les partis s'exaltèrent. Des gentilshommes partisans de la réforme commencèrent à parler d'une voix ferme contre la trahison qu'Aléandre demandait. « L'empereur, disait-il, est un jeune homme que les papistes et les évêques mènent à leur gré par leur flatterie. Palavicini fait mention de 400 nobles prêts à soutenir de leur glaive le sauf-conduit de Luther. » Le samedi matin, on trouva des placards affichés aux portes des maisons et sur les places publiques, les uns contre Luther et les autres en sa faveur. Sur l'un d'eux, on lisait simplement ces paroles énergiques de l'Ecclésiaste « Malheur à toi, terre, dont le roi est un enfant !» Sickingen, disait-on, a rassemblé à quelques lieues de Worms, derrière les remparts imprenables de sa forteresse, beaucoup de chevaliers et de soldats, et il n'attend pour agir que de savoir l'issue de l'affaire. L'enthousiasme du peuple, non seulement dans Worms, mais encore dans les villes les plus éloignées de l'Empire, l'intrépidité des chevaliers, l'attachement de plusieurs princes pour le réformateur, tout devait faire comprendre à Charles et à la Diète que la démarche réclamée par les Romains pourrait compromettre l'autorité suprême, exciter des révoltes et même ébranler l'Empire. Ce n'était qu'un simple moine qu'il s'agissait de brûler, mais les princes et les partisans de Rome n'avaient à eux tous ni assez de force ni assez de courage pour le faire. Sans doute aussi Charles Quint, jeune alors, craignait encore le parjure. C'est ce qu'indiquerait, si elle est vraie, cette parole que, selon quelques historiens, il prononça dans cette circonstance. Quand la bonne foi et la fidélité seraient bannies de tout l'univers, elles devraient trouver un refuge dans le cœur des princes. Il est triste qu'il l'ait peut-être oublié près de la tombe. Au reste, d'autres motifs encore pouvaient agir sur l'empereur. Le Florentin Vettori, ami de Léon X et de Machiavel, prétend que Charles n'épargna Luther que pour tenir ainsi le pape en échec. Dans la séance du samedi, les conseils violents d'Aléandre furent écartés. On aimait Luther, on voulait sauver cet homme si simple dont la confiance en Dieu était si touchante, mais on voulait aussi sauver l'Église. On frémissait à la pensée des conséquences qu'aurait également ou le triomphe ou le supplice du réformateur. Des voix de conciliation se firent entendre. On proposa de faire auprès du docteur de Wittenberg une nouvelle tentative. L'archevêque électeur de Mayence lui-même, le jeune et somptueux Albert, plus dévot que courageux, dit Pallavicini, avait pris peur en voyant l'intérêt que le peuple et la noblesse témoignaient aux moines saxons. Son chapelain, Capiton, qui avait été lié pendant son séjour à Bâle avec ce prêtre évangélique de Zurich nommé Zwingli, homme intrépide dans la défense de la vérité, dont nous avons eu déjà l'occasion de parler, avait aussi sans doute représenté à Albert la justice de la cause du réformateur. Le mondain archevêque eut un de ces retours à des sentiments chrétiens qu'on remarque quelquefois dans sa vie et consentit à se rendre auprès de l'empereur pour lui demander de permettre un dernier effort. Mais Charles se refusa à tout. Le lundi 22 avril, les princes vinrent encore renouveler les sollicitations d'Albert. « Je ne me départirai point de ce que j'ai arrêté, » répondit l'empereur. « Je ne chargerai personne de se rendre officiellement vers Luther. » Mais, ajouta-t-il au grand scandale d'Aléandre, « j'accorde 3 jours de réflexion à cet homme. Pendant ce temps, chacun pourra, en son particulier, lui faire les exhortations convenables. » C'était tout ce qu'on demandait. Le réformateur, pensait-on, exalté par la solennité de la comparution, cédera dans une conférence plus amicale et peut-être le sauvera-t-on de l'abîme où il est prêt de tomber. Les lecteurs de Saxe savaient le contraire. Aussi étaient-ils remplis de crainte. « Si cela était en mon pouvoir, écrivait-il le lendemain à son frère le duc Jean, je serais prêt à soutenir Luther. Vous ne sauriez croire jusqu'à quel point les partisans de Rome m'attaquent. Si je pouvais tout vous raconter, vous entendriez des choses étonnantes. Ils veulent sa ruine, et pour peu qu'on manifeste quelque intérêt pour sa personne, on est aussitôt décrié comme hérétique, que Dieu, qui n'abandonne pas la cause de la justice, amène tout à une bonne fin. » Frédéric, sans montrer la vive affection qu'il portait au réformateur, se contenta de ne pas perdre de vue un seul de ses mouvements. Il n'en était pas de même des hommes de tout rang qui se trouvaient alors dans Worms. Ils faisaient sans crainte éclater leur sympathie. Dès le vendredi, une foule de princes, de comtes, de barons, de chevaliers, de gentilshommes, d'ecclésiastiques, de la dame qui le portait à immoler sa vie à la voix de la conscience. Luther avait, avec plusieurs des personnages présents à Worms, l'élite de la nation, des entretiens pleins de ce sel dont toutes ses paroles étaient assaisonnées. On ne le quittait pas sans se sentir animé d'un généreux enthousiasme pour la vérité. « Que de choses j'aurais à vous raconter !» écrivait alors à l'un de ses amis le secrétaire privé du margrave Casimir de Brandebourg, Georges Vogler. « Que de conversations pleines de piété et de bonté Luther a eu avec moi et avec d'autres. Que cet homme est plein de grâce !» Un jour, un jeune prince de 17 ans entra en caracolant dans la cour de l'hôtel. C'était Philippe qui, depuis 2 ans, régnait sur la Hesse. Le jeune landgrave était d'un caractère prompt et entreprenant, d'une sagesse qui devançait les années, d'une humeur belliqueuse, d'un esprit impétueux, et n'aimant guère à se diriger que d'après ses propres idées. Frappé des discours de Luther, il désirait le voir de plus près. « Il n'était pourtant pas encore pour moi, » dit Luther en le racontant. Il sauta à terre, monta sans autre compliment dans la chambre du réformateur, et l'apostrophant, il lui dit « Eh bien, cher docteur, comment cela va-t-il ? » « Gracieux Seigneur, » répondit Luther, « j'espère que cela ira bien. » « À ce que j'apprends, » reprit le Landgrave en riant, « vous enseignez, docteur, qu'une femme peut quitter son mari et en prendre un autre quand le premier est reconnu trop vieux. » C'étaient les gens de la cour impériale qui avaient fait ce conte au Landgrave. Les ennemis de la vérité ne manquent jamais de répandre des fables sur de prétendus enseignements des docteurs chrétiens. « Non, monseigneur, » répondit Luther gravement, « que votre Altesse ne parle pas ainsi, de grâce. » Là-dessus, le prince tendit brusquement la main au docteur, serra cordialement la sienne et lui dit « Cher docteur, si vous avez raison, que Dieu vous soit en aide. » Puis il quitta la chambre, remonta à cheval et partit. Ce fut la première entrevue de ces deux hommes qui devaient plus tard se trouver à la tête de la Réformation et la défendre, l'un avec l'épée de la parole et l'autre avec celle des rois. C'était l'archevêque de Trèves, Richard de Grainfainclau, qui, avec la permission de Charles Quint, avait entrepris le rôle de médiateur. Richard, intimement lié avec l'électeur de Saxe et bon catholique romain, désirait en arrangeant cette difficile affaire rendre à la fois service à son ami et à son église. Le lundi soir, 22 avril, au moment où Luther allait se mettre à table, un envoyé de l'archevêque vint lui annoncer que ce prélat désirait le voir le surlendemain, mercredi, à 6h du matin. Livre 7, chapitre 10. Conférence chez l'archevêque de Trèves, exhortation de Veillet à Luther, réponse de Luther, conversation privée, visite de Cochléus, souper chez l'archevêque, tentative à l'hôtel de Rhodes, un concile proposé, dernier entretien de Luther et de l'archevêque, visite à un ami malade, Luther reçoit l'ordre de quitter Worms. Le chapelain et le héros impérial Sturm étaient ce jour-là avant 6h chez Luther. Mais déjà à 4h du matin, Aléandre avait fait appeler Cochléus. Le nonce n'avait pas tardé à reconnaître dans l'homme que lui avait présenté Capiton un serviteur dévoué de la cour de Rome sur lequel il pouvait compter comme sur lui-même. Ne pouvant être présent à cette entrevue, Aléandre voulait y avoir un remplaçant. « Trouvez-vous chez l'archevêque de Trèves, » dit-il au doyen de Francfort. N'entrez pas en discussion avec Luther, mais contentez-vous de prêter l'oreille la plus attentive à tout ce qui sera dit, en sorte que vous puissiez me le rapporter fidèlement. » Le réformateur arriva avec quelques amis chez l'archevêque. Il trouva ce prélat entouré du margrave Joachim de Brandebourg, du duc Georges de Saxe, des évêques de Brandebourg et d'Augsbourg, de quelques nobles, de députés des villes libres, des jurisconsultes et de théologiens, parmi lesquels étaient Cochléus et Jérôme Véhé, chancelier de Bade. Celui-ci, habile jurisconsulte, voulait une réformation dans les mœurs et dans la discipline. Il allait même plus loin. Il faut, disait-il, que la parole de Dieu, si longtemps cachée sous le boisseau, reparaisse dans tout son éclat. C'était cet homme conciliant qui était chargé de la conférence. Se tournant avec bonté vers Luther, « On ne vous a pas fait venir, lui dit-il, pour disputer avec vous, mais pour vous faire entendre des exhortations fraternelles. Vous savez avec quel soin l'Écriture nous invite à nous donner garde de la flèche volante et du démon du midi. Cet ennemi du genre humain vous a poussé à publier des choses contraires à la religion. Pensez à votre salut et à celui de l'Empire. Prenez garde que ce que Jésus-Christ a racheté par sa mort de la mort éternelle ne soit séduit par vous et ne périsse à jamais. Ne vous élevez pas contre les saints conciles. Si nous ne maintenons les décrets de nos pères, il n'y aura que confusion dans l'Église. Les princes éminents qui m'écoutent prennent à votre salut un intérêt particulier, mais si vous persistez, alors l'empereur vous bannira de l'Empire, et nul lieu dans le monde ne pourra vous offrir un asile. Réfléchissez au sort qui vous attend. « Sérénissime prince, répondit Luther, je vous rends grâce de votre sollicitude, car je ne suis qu'un pauvre homme, trop chétif pour être exhorté par de si grands seigneurs. » Puis il continua, « Je n'ai point blâmé tous les conciles, mais seulement celui de Constance, parce qu'en condamnant cette doctrine de Jean Hus, que l'Église chrétienne est l'assemblée de ceux qui sont prédestinés au salut, il a condamné cet article de notre foi. Je crois la Sainte Église universelle et la parole de Dieu elle-même. Mes enseignements excitent, dit-on, des scandales, ajouta-t-il. Je réponds que l'évangile de Christ ne peut être prêché sans scandale. Comment donc cette crainte ou l'appréhension du danger me détacherait-elle du Seigneur et de cette parole divine qui est l'unique vérité? Non, plutôt donner mon corps, mon sang et ma vie. Les princes et les docteurs ayant délibéré, on rappela Luther, éveillé, reprit avec douceur. Il faut honorer les puissances même quand elles se trompent et faire de grands sacrifices à la charité. Puis il dit d'un ton plus pressant, « Remettez-vous-en au jugement de l'empereur et soyez sans crainte. » Luther, « Je consens de grand cœur à ce que l'empereur, les princes et même le plus chétif des chrétiens examinent et jugent mes livres, mais à une condition, c'est qu'ils prennent pour règle la parole de Dieu. Les hommes n'ont autre chose à faire qu'à lui obéir. Ma conscience est dans sa dépendance et je suis prisonnier sous son obéissance. » L'électeur de Brandebourg. « Si je vous comprends bien, monsieur le docteur, vous ne voulez reconnaître d'autre juge que la Sainte Écriture. » Luther. « Oui, monseigneur, précisément, c'est là mon dernier mot. » Alors les princes et les docteurs se retirèrent. Mais l'excellent archevêque de Trèves ne pouvait se résoudre à abandonner son entreprise. « Venez, » dit-il à Luther en passant dans sa chambre particulière. Et en même temps, il ordonna à Jean de Heck et à Cochléus d'un côté, à Schurf et à Amsdorff de l'autre, de les suivre. « Pourquoi en appeler sans cesse à la Sainte Écriture ?» dit vivement Heck. « C'est d'elle que sont venues toutes les hérésies. » Mais Luther, dit son ami Mathésius, demeurait inébranlable comme un roc qui repose sur le roc véritable, la parole du Seigneur. « Le pape, répondit-il, n'est point juge dans les choses de la parole de Dieu. Chaque chrétien doit voir et comprendre lui-même comment il doit vivre et mourir. » On se sépara. Les partisans de la papauté sentaient la supériorité de Luther et l'attribuaient à ce qu'il n'y avait là personne qui fût capable de lui répondre. « Si l'empereur avait agi sagement, dit Cochléus, en appelant Luther à Worms, il eût aussi appelé des théologiens qui réfutassent ses erreurs. » L'archevêque de Trèves se rendit à la diète et annonça le peu de succès de sa médiation. L'étonnement du jeune empereur égalait son indignation. « Il est temps, dit-il, de mettre fin à cette affaire. » L'archevêque demanda encore 2 jours. Toute la diète se joignit à lui. Charles Quint céda. Aléandre, hors de lui, éclata en reproches. Pendant que ces choses se passaient à la diète, Cochléus brûlait de remporter la victoire refusée au prélat et au roi. Quoiqu'il eût de temps en temps lancé quelques mots chez l'archevêque de Trèves, l'ordre qu'Aléandre lui avait donné de garder le silence l'avait retenu. Il résolut de se dédommager et, à peine eut-il rendu compte de sa mission au nonce du pape, qu'il se présenta chez Luther. Il l'aborda comme un ami et lui exprima le chagrin que la résolution de l'empereur lui faisait éprouver. Après le dîner, la conversation s'anima. Cochléus pressait Luther de se rétracter. Celui-ci fit un signe négatif. Plusieurs nobles qui se trouvaient à table avaient peine à se contenir. Ils se montraient indignés de ce que les partisans de Rome voulaient non convaincre le réformateur par l'Écriture, mais le contraindre par la force. « Eh bien, dit à Luther Cochléus, impatient de ses reproches, je vous offre de disputer publiquement avec vous si vous renoncez à votre sauf conduit. » Tout ce que Luther demandait, c'était une dispute publique. Que devait-il faire? Renoncer au sauf conduit? C'était se perdre. Refuser le défi de Cochléus, c'était paraître douter de sa cause. Les convives voyaient dans cette offre une perfidie tramée avec Aléandre, que le doyen de Francfort venait de quitter. Wolrad de Watzdorf, l'un d'entre eux, ôta à Luther l'embarras d'un choix si difficile. Ce seigneur d'un caractère bouillant, indigné d'un piège qui n'allait à rien moins qu'à livrer Luther aux mains du bourreau, se leva avec impétuosité, saisit le prêtre effrayé, le poussa dehors et même le sang eut coulé si les autres convives n'eussent à l'instant quitté la table et interposé leur médiation entre le chevalier furieux et Cochléus tremblant d'effroi. Celui-ci s'éloigna confus de l'hôtel des chevaliers de Rhodes. Sans doute c'était dans le feu de la discussion que cette parole était échappée au doyen, et il n'y avait point eu entre lui et Aléandre un dessein formé à l'avance de faire tomber Luther dans un piège si perfide. Cochléus le nie, et nous nous plaisons à ajouter foi à son témoignage. Cependant, il sortait d'une conférence avec le nonce quand il se présenta chez Luther. Le soir, l'archevêque de Trèves réunit à souper les personnes qui avaient assisté à la conférence du matin. Il pensait que ce serait un moyen de détendre les esprits et de les rapprocher. Luther, si intrépide et si inébranlable devant des arbitres ou des juges, avait dans le commerce intime une bonhomie, une gaieté qui faisait qu'on osait tout espérer de lui. Le chancelier de l'archevêque, qui avait montré tant de roideur dans son caractère officiel, se prêta lui-même à cet essai et, vers la fin du repas, il porta la santé de Luther. Celui-ci se préparait à rendre cet honneur, le vin était versé, et déjà il faisait, selon sa coutume, le signe de la croix sur son verre, lorsque, tout à coup, le verre éclata dans ses mains et le vin se répandit sur la table. Les convives furent concernés. « Il faut qu'il y ait du poison !» dirent tout haut quelques amis de Luther. Mais le docteur, sans s'émouvoir, répondit en souriant « Chers messieurs, ou ce vin ne m'était pas destiné, ou il m'eût été nuisible. » Puis il ajouta avec calme « Sans doute le verre a sauté parce qu'en le lavant, on l'a plongé trop tôt dans l'eau froide. » Ces paroles si simples ont quelque chose de grand en une telle circonstance et montrent une paix inaltérable. On ne saurait présumer que les catholiques romains eussent voulu l'empoisonner, surtout chez l'archevêque de Trèves. Ce repas n'éloigna ni ne rapprocha des esprits. Ni la faveur, ni la haine des hommes ne pouvaient influer sur la résolution du réformateur. Elle provenait de plus haut. Le jeudi matin, 25 avril, le chancelier Véhé et le docteur Pöttinger d'Augsbourg, conseiller de l'empereur, qui avait témoigné à Luther beaucoup d'affection lors de son entrevue avec Deviau, se rendirent à l'hôtel des chevaliers de Rhodes. L'électeur de Saxe envoya Frédéric de Thun et un autre de ses conseillers pour assister à la conférence. « Remettez-vous-en à nous, » dirent avec émotion Véhé et Pöttinger, qui volontiers auraient tout sacrifié pour prévenir la division qui allait déchirer l'Église. « Cette affaire se terminera chrétiennement, nous vous en donnons l'assurance. » « En deux mots, voici ma réponse, » leur dit Luther. « Je consens à renoncer au sauf-conduit. Je remets entre les mains de l'empereur ma personne et ma vie, mais la parole de Dieu, jamais. » Frédéric de Thun, ému, se leva et dit aux envoyés, « N'est-ce pas assez? Le sacrifice n'est-il pas assez grand ?» Puis, déclarant qu'il ne voulait plus rien entendre, il sortit. Alors Véhé et Pöttinger, espérant avoir meilleur marché du docteur, vinrent se rasseoir à ses côtés. « Remettez-vous-en à la diète, » lui dirent-ils. « Non, » répliqua Luther, « car maudit soit quiconque se confie en l'homme. » Jérémie, chapitre 17, verset 5. Véhé et Pöttinger redoublent leurs exhortations et leurs attaques. Ils pressent de plus près le réformateur. Luther, lassé, se lève et les congédie en disant « Je ne permettrai pas qu'aucun homme se place au-dessus de la parole de Dieu. Réfléchissez encore, » dirent-ils en se retirant, « Nous reviendrons après-midi. » Ils revinrent en effet, mais, convaincus que Luther ne céderait pas, ils apportaient une proposition nouvelle. Luther avait refusé de reconnaître le pape, puis l'empereur, puis la diète. Il restait un juge que lui-même avait une fois invoqué, un concile général. Sans doute une telle proposition aurait indigné Rome, mais c'était la dernière planche de salut. Les délégués offrirent un concile à Luther. Celui-ci aurait pu accepter sans rien préciser. Des années se seraient passées avant qu'on eût pu écarter les difficultés que la convocation d'un concile aurait rencontrées de la part du pape. Gagner des années, c'était pour la réforme et pour le réformateur tout gagné. Dieu et le temps auraient fait alors de grandes choses, mais Luther mettait la droiture au-dessus de tout. Il ne voulait pas se sauver aux dépens de la vérité. Ne fallut-il même pour la dissimuler que garder le silence ? « J'y consens, » répondit-il, « mais, et faire cette demande, c'était refuser le concile, à condition que le Concile ne jugera que d'après la Sainte Écriture. Peutinger et Véhé, ne pensant pas qu'un concile pût juger autrement, coururent tout joyeux chez l'archevêque. « Le docteur Martin, lui dirent-ils, soumet ses livres à un concile. » L'archevêque allait porter cette heureuse nouvelle à l'empereur lorsqu'il lui vint quelques doutes. Il fit appeler Luther. Richard de Griffenclaw était seul quand le docteur arriva. « Cher monsieur le docteur, dit l'archevêque, avec beaucoup de bienveillance et de bonté, mes docteurs m'assurent que vous consentez à soumettre sans réserve votre cause à un concile. »« Monseigneur, répondit Luther, je puis tout supporter, mais non abandonner la Sainte Écriture. » L'archevêque comprit alors que V et Peutinger s'étaient mal expliqués. Jamais Rome ne pouvait consentir à un concile qui ne jugeât que d'après l'Écriture. C'était, dit Pallavicini, vouloir qu'un œil faible lût des caractères très fins et lui refuser en même temps des lunettes. Le bon archevêque soupira. « Bien m'en a pris, dit-il, de vous avoir fait venir. Que serais-je devenu si j'avais aussitôt été porté cette nouvelle à l'empereur ?» L'inébranlable fermeté, la roideur de Luther étonne sans doute, mais elles seront comprises et respectées de tous ceux qui connaissent le droit de Dieu. Rarement un plus noble hommage fut rendu à la parole immuable du ciel, et cela au péril de la liberté et de la vie de l'homme qui le rendait. « Eh bien, dit à Luther le vénérable prélat, indiquez donc vous-même un remède. » Luther, après un moment de silence. « Monseigneur, je n'en connais d'autre que celui de Gamaliel. Si ce dessein est un ouvrage des hommes, il se détruira de lui-même. Mais s'il vient de Dieu, vous ne pouvez le détruire, et prenez garde qu'il ne se trouve que vous ayez fait la guerre à Dieu. » Que l'empereur, les électeurs, les princes et les états de l'empire mandent cette réponse au pape. L'archevêque. Rétractez au moins quelques articles. Luther. Pourvu que ce ne soit pas ceux que le concile de Constance a condamnés. L'archevêque. Ah, je crains bien que ce ne soit précisément cela qu'on vous demande. Luther. Alors, plutôt immoler mon corps et ma vie. Plutôt me laisser couper bras et jambes que d'abandonner la parole claire et véritable de Dieu. L'archevêque comprit enfin Luther. « Retirez-vous, lui dit-il toujours avec la même douceur. Monseigneur, reprit Luther, veuillez faire en sorte que Sa Majesté me fasse expédier le sauf-conduit nécessaire pour mon retour. J'y pourvoirai, répondit le bon archevêque, et ils se quittèrent. Ainsi finirent ces négociations. L'Empire tout entier s'était tourné vers cet homme avec les plus ardentes prières et les plus terribles menaces, et cet homme n'avait pas bronché. Son refus de fléchir sous le bras de fer du pape émancipait l'Église et commençait des temps nouveaux. L'intervention providentielle était évidente. C'est ici l'une de ces grandes scènes de l'histoire au-dessus desquelles plane et s'élève la figure majestueuse de la divinité. Luther sortit avec Spalatin, qui était survenu pendant la visite chez l'archevêque. Le conseiller de l'électeur de Saxe, Jean de Minkwitz, était tombé malade à Worms. Les deux amis se rendirent dans sa maison. Luther présenta au malade les plus touchantes consolations. « Adieu, lui dit-il en s'éloignant, demain je quitterai Worms. » Luther ne se trompait pas. Il n'y avait pas 3 heures qu'il était de retour à l'hôtel des Chevaliers de Rhode, lorsque le chancelier de Heck, accompagné du chancelier de l'empereur et d'un notaire, se présenta chez lui. Le chancelier lui dit « Martin Luther, Sa Majesté impériale, les électeurs, princes et états de l'Empire, t'ayant exhorté à la soumission à plusieurs reprises et de plusieurs manières, mais toujours en vain, l'empereur, en sa qualité d'avocat et de défenseur de la foi catholique, se voit obligé de passer outre. Il t'ordonne donc de retourner chez toi dans l'espace de 21 jours et te défend de troubler la paix publique sur la route, soit par des prédications, soit par des écrits. » Luther sentait bien que ce message était le commencement de sa condamnation. « Il en est arrivé comme il a plu à l'Éternel, répondit-il avec douceur. Le nom de l'Éternel soit béni. » Puis il ajouta, « Avant toute chose, je remercie très humblement et du fond de mon cœur Sa Majesté, les électeurs, les princes et autres états de l'Empire, de ce qu'ils m'ont écouté avec tant de bienveillance. Je n'ai désiré et je ne désire qu'une seule chose, une réformation de l'Église d'après la Sainte Écriture. Je suis prêt à tout faire, à tout souffrir, pour me soumettre humblement à la volonté de l'empereur. Vie et mort, honneur et opprobre, tout m'est égal. Je ne fais qu'une seule réserve, la prédication de l'Évangile, car, dit saint Paul, la parole de Dieu ne peut être liée. » Les députés sortirent. Le vendredi 26 avril, au matin, les amis du réformateur et plusieurs seigneurs se réunirent chez Luther. On se plaisait en voyant la constance chrétienne qu'il avait opposée à Charles et à l'Empire, à reconnaître en lui les traits de ce portrait célèbre de l'Antiquité. « Justum ac tenacem propositi virum, non civium ardor prava jubensium, non vultus insantis tyranni, mente quatit solida. » Ode d'Horace, livre 3, qui, traduite, donne « L'homme juste et ferme en ses desseins ne chancelle jamais dans la vertu, rien ne l'ébranle, ni les fureurs d'un peuple qui lui commande le mal, ni le regard menaçant du despote. » On voulait encore une fois, et peut-être pour toujours, dire adieu à ce moine intrépide. Luther fit un modeste repas. Maintenant, il fallait prendre congé de ses amis et fuir loin d'eux sous un ciel gros d'orage. Il voulut passer ce moment solennel en la présence de Dieu. Il éleva son âme, il bénit ceux qui l'entouraient. 10 heures du matin sonnèrent. Luther sortit de l'hôtel avec les amis qu'il avait accompagnés à Worms. 20 gentilshommes à cheval entouraient son char. Une grande foule de peuple l'accompagna hors des murs de la ville. Le héros impérial Sturm le rejoignit quelque temps après à Oppenheim et le lendemain, ils arrivèrent à Francfort.